Dis à ton voisin, Dieu n'est que bon. Pas simplement Dieu est bon, hein. Tu dis à ton voisin, Dieu n'est que bon. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ? Merci. Vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu ? Alors, il y a depuis quelque temps, j'ai prêché sur le sujet de la guérison. À vrai dire, c'est un sujet qui n'a pas toujours la même compréhension selon les églises. Alors, personne ne peut nier que Jésus, quand il est venu sur terre, a guéri tous les malades qui acceptaient, qui voulaient être guéris par lui, tous. Il n'a jamais dit à un autre, écoute, reviens plus tard, je ne me sens pas. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, tu ne mérites pas d'être en bonne santé. Et Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, attends, il faut que je prie, que je jeûne pendant 3 jours, parce que je ne suis pas sûr que le Père soit d'accord avec le fait que tu sois guéri ou que tu sois en bonne santé. Jamais. Jésus a vu des malades qui voulaient être guéris par lui, et il les a guéris. Et au fil des temps, eh bien, il se trouve que ce sujet a reçu beaucoup de commentaires, et aujourd'hui, aussi bizarre que cela, en tout cas, me semble, eh bien, c'est un sujet qui n'est pas clair pour tout le monde, voire pas qui divise, mais en tout cas, qui peut même parfois créer quelques tensions, avec des interprétations que l'on prête à Dieu, du style Dieu qui nous dirait « je veux le guérir lui, mais je ne veux pas te guérir toi ». Ça reviendrait à ce que Dieu nous dise « toi je t'aime et lui sa tête je ne peux pas l'avoir ». Il faut quand même qu'on s'interroge sur la nature du Père, si tel était le cas. Alors il ne devrait pas y avoir d'incertitude concernant notre foi. Alors, il faut savoir que Jésus guéri figure dans le credo de très peu d'églises. À vrai dire, Jésus guéri n'est pas dans le credo des catholiques, ni dans la Fédération évangélique de France, ni chez les baptistes, ni chez les réformés. En revanche, dans les assemblées de Dieu de France, cette phrase y est, ils le disent, nous croyons que la prière pour la guérison des malades est une mission de l'Église, donc en général, qui est associée à la prédication de l'Évangile. Cette prière peut s'accompagner des gestes symboliques de l'imposition des mains ou de l'onction d'huile, selon les enseignements de Jésus-Christ. Sans l'opposer à la médecine et sans fanatisme, nous croyons que la prière pour les malades et les affligés a toujours sa place dans l'annonce de l'évangile du Dieu compatissant. Et ce credo, cette croyance, ce dogme, se trouve aussi dans l'église appelée Fourth Square, dont la fondatrice est Aimée Semple McPherson, qui disait continuellement au cours de l'exercice de son ministère, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de son esprit et Jésus revient. Alors, pourtant aujourd'hui, il y a peu de chrétiens qui sont malades et qui osent demander à Jésus de les guérir. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi. Y aurait-il un évangile, et dans ce silence de cathédrale, je pense que je vais pouvoir vous donner la réponse, mais y aurait-il un évangile avec des guérisons suivies des actes des apôtres, c'est-à-dire les apôtres qui ont reproduit les actes de Jésus, y aurait-il des actes du début de l'Église, de la naissance de l'Église? Et y aurait-il pour nous autre chose, pauvres chrétiens du XXIe siècle? Parce que non seulement Jésus physiquement il n'est plus sur terre, mais si en plus on ne peut pas avoir la même chose en croyant la même chose, en croyant dans la puissance de la rédemption, Si on ne peut pas avoir les mêmes résultats parce que quelque chose aurait changé, alors déjà j'aimerais savoir quel jour est-ce que ça, les choses ont commencé à changer, à partir de quel jour. Bon, ben, je vous dis que, autant que je le sache, personne ne connaîtrait le jour où Dieu a dit « Hop, stop là !» Vous, chrétiens du deuxième siècle, arrêtez de m'ennuyer avec cette histoire de guérison, quoi. Les miracles, c'est passé. Ah bah ouais, mais bah oui, mais voilà, voilà. Bah ça, c'était il y a deux, trois siècles avant, et toi tu es malade. Ah, écoute, je sais pas, moi. Et c'est la médecine. Ah, elle peut plus. Oh, je te rassure, tu vas passer l'éternité avec moi, de toute façon, je veux dire, ça va, quoi. Tout n'est pas si noir que cela. Vous croyez vraiment que nous servons un Dieu aussi versatile? Alors, il y a quelque chose qui a influencé le regard que l'on a sur la volonté de Dieu quant à la guérison et à la santé. Et nous devons savoir ce qui a influencé. Parce que si la volonté de Dieu n'a pas changé, mes amis, elle ne peut pas changer la volonté de Dieu. Pourquoi ? Bah parce que la volonté de Dieu est éternelle parce qu'elle provient, je sais que ça va être profond ce que je veux dire, mais elle provient d'un Dieu éternel. Donc si Dieu est éternel, ce qu'il veut ne peut pas fluctuer en fonction de l'économie. Si Dieu est éternel, ce qu'il veut pour un, il le veut pour tous, concernant les généralités de la vie, concernant notre relation avec lui, concernant ce qu'il souhaite pour l'être humain en général. Nous sommes d'accord, sa volonté est éternelle. Qu'est-ce qui aurait amené cette volonté à être, non pas à changer, mais à être interprétée différemment? Alors, il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, la plupart des prédicateurs étaient cessationnistes. On entend le mot « cessation ». On entend le verbe « cesser ». La définition, c'est « le cessationnisme est la vue théologique selon laquelle les dons charismatiques de l'esprit, comme la glossolalie, donc le parler en langue, la prophétie ou la guérison, ont cessé très tôt dans l'histoire de l'Église. » Photo 1. Il y a quatre groupes de cessationnistes. La guérison aurait stoppé, les dons de l'esprit auraient stoppé, les cigarettes aussi d'ailleurs. C'était ma blague, c'est que... Alors, il y a quatre groupes, les cessationnistes concentriques. Certains disent, oula, attends, je ne suis pas venu à un cours de... Non mais, vous savez, il y a des gens qui meurent de manière précoce parce qu'ils croient ces choses-là. Il y a aujourd'hui des enfants qui sont orphelins parce qu'un de leurs parents est mort de maladie et parti de manière précoce. Donc c'est sérieux. Il y a les cessationnistes concentriques qui croient que les dons miraculeux ont cessé dans l'Église officielle et les pays évangélisés, mais que ceux-ci appartiennent dans des contrées non touchées par l'Évangile comme une aide pour diffuser l'Évangile. C'était Martin Luther King, Jean Calvin, etc. Il y a les cessationnistes classiques, peut-être que vous allez vous trouver dans un d'eux, je ne sais pas, qui affirment que les dons signes comme la prophétie, la guérison, le parler en langue ont cessé avec les apôtres et la fin des Écritures. C'était seulement un moyen de lancer la diffusion de l'Évangile pour affirmer qu'il s'agissait bien d'une révélation de Dieu. Donc aujourd'hui, occasionnellement, il y a un petit miracle de temps en temps. Il y a les cessationnistes pleins. Et je ne sais pas, je n'ai pas trouvé les vides, mais je pense qu'il y en a plus encore. Les cessationnistes pleins pensent qu'il n'y a plus de dons miraculeux aujourd'hui, mais qu'il n'y a plus non plus de dons, de miracles en général provoqués par Dieu. Et puis il y a les cessationnistes réguliers, je crois qu'il y en a de partout de cela. Ils croient que non seulement les dons miraculeux n'ont servi que pour l'établissement de l'Église au 1er siècle, mais aussi que les cinq ministères, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants et les pasteurs, que l'on trouve en Éphésiens 4, sont une institution de transition et qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'évangélistes, il n'y a plus d'enseignants et il n'y a plus de pasteurs. Vous croyez qu'il y a des cessationnistes réguliers encore sur notre planète ? Oui, il y en a beaucoup. Donc, si vous voulez, il y a, au cours des ans, ce qui était une affirmation, Jésus est mort afin que nous soyons guéris. Jésus est mort sur la croix, non seulement pour nous sauver de nos péchés, mais encore pour nous guérir, pour rétablir la bénédiction dans toutes nos vies. Si on a réussi à teinter cette doctrine qui était claire en disant « Ah non, ça n'était que pour le début », dans ces cas-là, si un chrétien est malade ou quelqu'un d'autre, il aura beaucoup de difficultés à se tourner vers Dieu. Pourquoi ? Parce que dans son cœur, pour lui, c'est passé, Jésus ne guérit plus aujourd'hui. Vous imaginez que tout cela limite le ministère de Jésus. Il y a encore une deuxième influence qui a impacté l'interprétation de la volonté de Dieu quant à la guérison et à la santé, c'est le dualisme. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce que le dualisme ? Ben, je vais vous l'expliquer d'une manière très très simple. Le lecteur occidental que nous sommes lit un livre hébreu, la Bible, avec les lunettes de la culture grecque. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un, je refuse que les photos soient utilisées. Bah vous n'allez jamais l'oublier cette histoire-là. Tu veux me passer ta Bible si je la vois ? Parce que j'ai les écritures là, mais... Vous avez un lecteur lambda, occidental, qui lit un livre qui est venu à travers une culture hébraïque du Moyen-Orient et qui a, pour le lire, les lunettes de la culture grecque. Vous allez dire, les lunettes de la culture grecque. Alors du coup, je vais quand même remettre mes autres lunettes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, vous savez que les Grecs ont impacté notre culture. Hein, on a des vestiges à Nice, partout dans notre Gaule. Et ils étaient connus pour la manière de répandre leur culture. C'était des gens qui mettaient, autant les Romains étaient plutôt des soldats, c'était des constructeurs et c'était des agriculteurs. Mais quand ils ont vaincu les Grecs, ils ont trouvé que le peuple grec qu'ils ont admiré, les Romains ont vaincu les Grecs, mais ils les ont admirés. Ils ont gardé beaucoup, beaucoup de choses de la culture grecque, de la philosophie grecque, de la manière de penser grecque. Et devinez, nous qui sommes nés essentiellement en Europe ou autour du bassin méditerranéen, nous avons tous été impactés par cette culture. Et aujourd'hui, nous lisons un livre avec les lunettes de la culture grecque. Alors, quelle différence est-ce que ça fait ? Ben, c'est simple. C'est que contrairement aux Grecs, les Hébreux considéraient que le monde était bon, car bien que déchu, il avait été à l'origine créé par l'Éternel, qui, en le créant, avait eu les meilleurs intérêts pour l'humanité, et que pour les Hébreux, l'être humain entier, on va résumer âme et corps, était appelé à servir son serviteur avec passion dans ce monde physique. C'est-à-dire que pour les Hébreux, il n'y avait pas le monde d'en bas, et le monde d'en haut. Il n'y avait pas le monde d'en bas terrestre et physique et un monde spirituel qui lui était supérieur. Pour les Hébreux, donc dans la culture biblique, ce qui est physique est aussi important que ce qui est spirituel. Et les deux sont indissociables, mais c'est l'opposé dans la culture grecque. Vous avez un monde qui n'était pas si important que cela. C'était le monde physique, le monde terrestre. Et en revanche, tout ce qui était intellectuel, tout ce qui était spirituel, rappelez-vous du nombre de dieux qu'ils avaient, ça c'était important, c'était essentiel et c'était le plus important et le plus élevé. Et maintenant, peut-être que vous réalisez que vous, quand vous avez peut-être partagé Christ avec certaines personnes, vous avez eu des réponses comme « Oh non, mais je ne vais pas ennuyer Dieu avec des choses qui sont aussi terrestres. » Vous avez déjà entendu cette réponse ? « Oh non, mais tu sais, oui, je suis malade, j'aimerais être en bonne santé, mais dans le fond, il y a plus important. » Ça c'est quoi ? C'est grec ! Quand j'invite les visiteurs à revenir, il y a peut-être des raisons. C'est que tous les cultes sont pas pareils. Mais c'est du grec. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a impacté notre culture. Et combien de chrétiens font la dissociation ? C'est ça le dualisme. Le dualisme, c'est il y a une séparation, il y a une échelle de valeur entre ce qui est physique et ce qui est spirituel, mais pas dans la culture hébraïque, pas dans la culture de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix, il y a des gens qui ont des difficultés à croire que oui, il est mort pour nos péchés, d'accord, ça c'est normal, parce que ça c'est d'un ordre beaucoup plus élevé, c'est spirituel, c'est important, c'est grand, mais ils ont des difficultés à accepter que Jésus soit mort pour que nous soyons en bonne santé. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, c'est d'en bas et c'est de moindre importance. Est-ce que vous comprenez pourquoi d'un côté, il y a tout ce cessationnisme-là, il y a tout un tas de personnes qui disent non, mais Jésus, oui, il guérissait au début de l'Église, mais on ne sait pas quel jour, mais il a arrêté. Aujourd'hui, il n'y a plus de guérison. Et puis d'ailleurs, il y a tellement plus de guérison qu'il n'y a même plus de pasteur. Et puis il n'y a plus d'apôtre. Et puis il n'y a plus de prophète non plus. D'ailleurs, on se demande ce qui reste. À force d'enlever, on a envie de lui dire, il reste combien de pages dans ta Bible à toi ? Mais en plus, il y a cette culture grecque que nous nous trimballons. Regardez avec moi dans Ésaïe chapitre 53. Séparer ce qui est physique de ce qui est spirituel ne correspond pas à la réalité hébraïque. L'influence grecque rabaisse ce qui est physique et terrestre. Il y avait d'ailleurs un professeur baptiste en théologie au séminaire de Pasadena en Californie, George Elton Ladd, qui a dit ceci. Il a dit, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'antithèse entre les dimensions intérieures et extérieures de l'homme, ni entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. La vie tout entière est perçue comme un don de Dieu dont il faut jouir pleinement. La prospérité physique, la productivité, une longue vie, une santé, un bien-être et la sécurité physique sont des aspects de la vie que l'Ancien Testament peint comme étant la volonté de Dieu pour ses enfants obéissant à l'Alliance. Et M. Tresmontant a dit ceci, il a dit, en hébreu, il n'y a même pas de mot pour désigner le corps, au sens où Platon et Descartes parlent du corps, c'est-à-dire une substance distincte de l'âme. Le mot hébreu bazar, sarx, en grec la chair, ne désigne pas le corps en tant qu'il serait distinct de l'âme et opposé à elle, mais au contraire, en tant qu'il en est l'expression concrète. C'est l'être vivant tout entier. Donc tu comprends que quand Dieu considère ta vie, il ne considère pas que ce qui a à voir avec sa relation avec lui, Dieu considère tout parce qu'il ne te voit pas séparé. Il te voit vivre sur terre, mais pour lui, c'est un tout. Dieu s'intéresse à tout de ta vie. Ben, dans l'enthousiasme général. Alors, regardez avec moi dans... Qu'est-ce que je vous ai dit ? Non, regardez avec moi dans Exode, chapitre 15, versets 22 et 26. Alors, les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire de l'eau, car elle était amère. De là vient le nom de Mara, signifiant amertume. La foule se mit à protester contre Moïse, blablabla. Et ensuite, il dit à la foule qui protestait, il dit, « Si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous obéissez à mes commandements et mettez en pratique mes lois, alors je ne vous affligerai aucune des maladies que j'ai affligées aux Égyptiens. » Écoutez bien comment Dieu se révèle au peuple d'Israël. Et si vous voulez connaître Dieu, eh bien, étudiez les noms de Dieu, parce qu'il se révèle à travers chaque nom. Et l'Éternel dit, « En effet, je suis le Seigneur qui vous guérit. » Je suis l'Éternel. Quand il se révèle à nous, ça n'est pas simplement le Sauveur, il n'est pas simplement celui qui pardonne nos péchés. Pour l'Éternel, nous sommes un tout, et l'Éternel veut que tu le laisses te guérir. Je suis l'Éternel. Ça, c'était la première fois qu'il se révélait au peuple juif. Et vous savez que pour les Juifs, les révélations qu'il y a dans les 5 premiers livres de la loi, de la Bible, appelée le Pentateuque ou de la Torah, eh bien, c'est indisputable. On ne peut pas négocier, on ne peut pas teinter, on ne peut pas changer la révélation de Dieu. Et Dieu dit, je suis celui qui te guérit. Donc, quand l'Éternel s'est révélé au peuple hébreu, eh bien pour eux c'était normal. C'était normal. Avant qu'il se révèle à eux, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres dieux. Alors, il y avait un dieu pour retrouver la mémoire. Il y avait un dieu pour pouvoir payer ses factures à la fin du mois. Il y avait un dieu pour trouver un travail. Il y avait un dieu pour avoir la maison de ses rêves. Il y avait un dieu pour se marier. Il y avait un dieu pour être en bonne santé. Il y avait un dieu. Il y avait mille et une foule de dieux. Et l'Éternel se révèle d'abord à Abraham et ensuite, on connaît jusqu'à aujourd'hui par Jésus-Christ. Et quand il se révèle, il dit, vous n'adorerez que moi. Et la promesse qu'il fait, c'est tout ce que vous cherchez que les autres dieux vous donnent, je vous le donnerai. Pourquoi ? Parce que Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux et de l'univers, n'est pas comme les autres dieux qui s'intéressent à un aspect de ta vie. La parole, c'est « Nous n'adorons qu'un seul Dieu, l'Éternel vivant, parce qu'il suffit à lui tout seul pour prendre soin de toi dans tous les domaines de ta vie. » Moi, si j'étais à sa place, je serais vexée maintenant. Et tu réalises que tous les domaines de ta vie sont pourvus en un seul Dieu, un seul. Tu n'as plus besoin de te disperser, d'aller vers ce Dieu et vers ce Dieu et vers ce Dieu, un seul. Si tu te laisses trouver par celui qui s'est révélé en Jésus-Christ, tous les domaines de ta vie sont pourvus. Donc, il est évident que pour les Hébreux, dès le départ, que se passait-il ? Ben, ils savaient que la guérison se trouvait dans l'Éternel Dieu. C'était normal ! Dans l'Alliance, c'était normal que la guérison fasse partie de l'Alliance. Alors maintenant, regardez dans Ésaïe chapitre 53. Vous savez, vous avez sur notre site, vous avez partout Église la bonne nouvelle, l'Église qui vous enseigne. Église la bonne nouvelle, l'Église qui vous enseigne. On ne vient pas à l'Église pour suivre un rituel. On vient à l'Église pour connaître le Dieu vivant. Ésaïe 53, il est dit au verset 3, 5 et 10, il est, alors, des centaines d'années avant que Jésus arrive, il était décrit, non seulement son caractère était prophétiquement décrit, mais en plus, ce qu'il ferait était prophétiquement décrit. Si tu veux savoir quelle est une des autres différences entre le Dieu créateur, le vrai, et les autres dieux, c'est que le Dieu vivant annonce la fin d'une chose avant qu'elle ait commencé. Parce que c'est facile de dire, ah bah oui, bah je savais que ça allait se passer comme ça une fois que c'est fait. Mais annonce quelque chose des centaines d'années avant qu'elle ait même, c'est-à-dire qu'elle ait même commencé. Et il t'annonce la fin de la chose. Et la Bible annonce des centaines d'années avant que Jésus n'arrive sur terre, la Bible nous décrit la personne et l'œuvre de Jésus. Verset 3, il est dit que Jésus était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Donc là, c'était sur la croix qu'il était. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et le verset 10 nous dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Vous savez ce que dit la traduction du rabbinat ? Elle dit « méprisé, repoussé des hommes, homme de douleur, expert en maladie. » Il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. C'est-à-dire que si tu avais vu Jésus à la croix, il était tellement défiguré, il avait été tellement frappé par les coups de fouet, son corps était tellement déchiré parce qu'il payait le prix, il portait notre punition, que nous n'aurions pas pu. Vous savez, le film de la Passion, c'est rien à côté. Si vous l'avez vu, moi, il y a des moments où je baissais le regard parce que je ne pouvais pas. Mais ça n'était rien à côté de ce à quoi Jésus ressemblait sur la croix. La Bible dit, aucun de nous n'aurait pu regarder la personne de Jésus. Aucun de nous. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il portait nos maladies. Il dit, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait. Ensuite, il est dit, c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment gage de notre salut pesait sur lui, et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Expert en maladie, Jésus est allé sur la croix pour que nous soyons guéris. Il a porté nos maladies en même temps qu'il portait nos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Les deux sont indissociables. Le monde chrétien ne peut pas dire qu'il y a un monde spirituel qui est important, un monde intellectuel qui est important et un monde physique qui est méprisable. Et ça explique peut-être pourquoi il y a tant de chrétiens qui ne prennent pas soin d'eux. C'est parce que pour eux, ce qui est apparence, ce qui est physique, ce qui est sur terre, est en bas. Mais pas pour Dieu. Jésus est allé à la croix oui, il a réglé notre dette vis-à-vis de Dieu. Oui, il a payé pour nos péchés. Oui, il nous a réconciliés avec lui. Et oui, dans l'esprit, nous avons le droit, légalement, devant la cour de justice du ciel, de nous tenir devant un Créateur. Et il ne nous condamnera jamais. Mais en même temps, pendant que nous sommes sur terre, nous avons le droit d'être en bonne santé. Et c'est aussi juste. Légalement, nous avons le droit d'être guéris. Nous avons le droit de vivre une longue vie, rassasiée de longs jours. Quand il est dit que Jésus a porté nos iniquités, c'est assez intéressant, parce que ce mot « avon », qui est un mot en hébreu, il inclut tout ce qui concerne le péché, c'est-à-dire le jugement du péché et ses conséquences, c'est-à-dire que le pardon de l'iniquité s'étend au péché lui-même, à la culpabilité qui va avec le péché et au châtiment divin. Alors, ça pourrait être compliqué, quelqu'un dit, tu sais, je ne comprends rien. Ben, c'est très simple, je vais te le dire. Je vais te le résumer. Tu as déjà entendu des gens à qui tu dis, tu sais, Jésus guérit, tu ne voudrais pas le laisser te guérir. Et ces personnes ont répliqué, non, mais tu sais, après tout le mal que j'ai fait, c'est juste que je paye. Vous avez rencontré des gens qui cherchent à payer pour leurs péchés en portant une maladie? La France est pleine de ces croyants. Pourquoi? Parce que ces croyants ne comprennent, sont encore.
Où ça? Comment est-ce qu'ils voient leur vie avec Dieu?
À travers la culture grecque. À travers le fait qu'on leur dit « il y a le monde d'en bas ». Et il y a le monde d'en haut. Alors ma question est, toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Si tu es malade, est-ce que tu crois que Jésus a cessé de guérir? Ou est-ce que tu crois que conformément aux Écritures, il continue à guérir? Est-ce que tu crois que demander à Jésus de nous guérir, c'est mesquin? C'est le déranger avec quelque chose d'inutile, quelque chose qui n'est pas important parce qu'il ne passe son temps qu'à s'occuper des anges. Il vaut mieux que tu puisses répondre à cette question. Parce que le jour où la maladie viendrait peut-être frapper à ta porte ou à celle de tes enfants, ce que tu crois fera la différence entre le fait de résister à la maladie ou de l'accepter comme une amie. Fera la différence entre sortir d'un lit de maladie, rester en bonne santé et rester cloué au lit. Ça fait ce que tu crois fait la différence. La question n'est pas ce que je crois. J'ai examiné les Écritures, je comprends qu'il n'y a pas de monde d'en haut, de monde d'en bas dans le sens de méprisable ou pas important, important, élevé. Ça n'existe pas cela. Maintenant, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Alors, je vais vous laisser avec cette écriture. Je vais vous laisser penser à ce que vous avez entendu ce matin. Et si vous êtes malade, eh bien, c'est très simple. Peut-être que vous pouvez commencer. Vous savez, quelquefois, on dit, ah, mais tu sais, alors, pasteur, j'ai compris. Non. Ce que je veux, c'est que tu réfléchisses à ce que tu viens d'entendre. Je veux que tu te poses des questions sur ce que tu crois. Et le jour où tu as la conviction que tu es important pour Dieu, le jour où tu as la conviction que Jésus te guérit, alors ce sera le moment que nous t'imposions les mains. Tu dis, ben moi je crois. Et alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être malades et qui sont en train d'exercer leur foi, et c'est très bien. Si tu dis, moi je voudrais qu'on m'impose les mains, eh bien tout à l'heure après le culte, viens et quelqu'un de l'équipe pastorale t'imposera les mains volontiers. Pour ceux qui ne sont pas sûrs que Jésus guérit, je veux que vous réfléchissiez. Reprenez cette écriture d'Ésaïe 53 et trouvez par vous-même que le jour où nos péchés ont été pardonnés, oui, c'était spirituel, ce même jour, nous avons eu le droit d'être en bonne santé, dans un même acte d'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je veux te remercier pour ce temps, je veux te remercier pour ta parole, parce que combien il est bon de te connaître, combien il est bon, mon Dieu, d'avoir des certitudes. Nous ne voulons pas être de ceux qui flanchent, nous ne voulons pas être de ceux qui doutent, nous voulons vivre avec toi, mon Dieu, avec des convictions, et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen.